gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Figgets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir toi, ami auditeur, ami auditrice, c'est 22h, c'est 22h, il est 22h, à l'horloge de Radio Canu et même une petite minute en plus, et c'est donc l'heure de la causerie comme tous les dimanches de 22 à 23h donc, et ce soir dans les studios nous avons Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Ça c'est le bonsoir de concentration sur les réglages. Oui, c'est sérieux ici. Nous avons aussi dans le studio Fab.
Bonsoir.
Voilà, lui c'est le côté tiens, moi c'est bon, je suis là, j'ai le cul posé et voilà.
Et tout est réglé pour moi, donc tout va bien.
Voilà, c'est ça. Donc vous avez bien compris, si on a une qui a la pression ici, c'est pas nous.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture de l'émission.
Tout à fait, bonsoir.
Mais Clara disait qu'elle n'avait pas la pression non plus.
Je sais pas comment elle fait. Alors, eh bien, avant de commencer notre causerie avec des sujets comme un peu à notre habitude, on va vous rappeler comment nous contacter. C'est toujours par mail à la causerie canu. Tout attaché et en minuscule, lacausericanu@gmail.com. Vous pouvez aussi, quand ça fonctionnera à nouveau, accéder à la causerie via le blog et les blogs de Radio Canu. Je vous donne l'adresse, si au cas où vous avez un petit bout de papier, notez-la, parce que pour l'instant ça marche pas, donc n'y allez pas, ça servira à rien. Donc c'est blogs@radiocanu.org/lacausserie. Et nous avons aussi un petit espace sur un réseau socio-commercial sur lequel vous ne trouvez que les podcasts.
Quand il marche.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que
c'est lié aussi.
Vu que la source podcast des blogs ne fonctionne pas en ce moment, eh ben, vous ne trouvez rien non plus sur la page du réseau socio-commercial.
Et d'ailleurs, si notre fournisseur d'accès Internet, qui a un, nom qui est une couleur, nous écoute, ben, ce serait vachement cool.
Que tu bouges ton cul.
Ouais, parce que bon, quand même, 2 semaines pour remettre Internet dans une radio, c'est quand même pas très pro ça.
Ah non, voilà. Mais je pense que si on était une grosse boîte du CAC 40, j'aurais déjà dit technicien et ça serait déjà réglé depuis 3 semaines en fait.
Je crois, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est marrant, dès qu'on pèse du pognon, on vous écoute. Et voilà, donc, et si je voulais rappeler quand même aussi que la causerie, il y a des petits stickers, des petits autocollants comme ça, si t'as envie de coller, tu vois, la causerie un peu partout, n'hésite pas à nous envoyer un mail, et puis on échangera par mail, et puis on te demandera ton adresse, tout ça, et on vous enverra tout ça chez vous, directement.
Dans voilà. Votre boîte aux lettres.
C'est ça, parce qu'il faut porter la bonne parole de la causerie. Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça.
Et où que vous soyez dans le monde, mais pas trop loin.
Ouais, c'est-à-dire qu'une fois au-delà de la Terre, nous on peut pas envoyer, donc
pas sur Mars.
Non, on n'a pas encore de service postal jusque là-bas.
D'accord.
Bon. On peut faire un effort pour l'ISS.
Mais bien sûr. Alors, eh ben, on va commencer tout de suite. Enfin, c'est toi, Fab, qui va nous parler d'un film ou d'un documentaire.
Un docu-film. Un film documentaire, quoi.
Waouh.
Voilà. Donc,
j'étais pas loin. Hein.
Alors, attention, le titre, c'est hashtag female pleasure. Voilà. Donc, c'est vraiment le titre. Hein. Il y a vraiment le hashtag devant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce hashtag, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur Internet. Parce parce que le film est un petit peu la continuité d'une campagne mondiale qui avait été lancée sur le plaisir féminin et le fait de pouvoir retrouver la jouissance de son corps quand on est une femme. Voilà. Et donc, en fait, ben, ce mouvement a donné lieu à ce film dont je vais vous parler là et qui est, je le dis d'avance, un très bon documentaire. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc, Barbara Miller, c'est la réalisatrice. Elle fait un documentaire qui est en fait un but. C'est de nous offrir la vision de 5 femmes qui ont décidé de relever la tête et de se mettre en lutte contre le patriarcat. Et en fait, elle prend ces 5 femmes sur 5 continents. Donc comme ça, c'est pratique, ça permet de couvrir la Terre entière, ou quasiment. Et elle démontre en fait avec brio que l'ennemi commun de toutes ces femmes, bah, c'est justement le patriarcat. Et que le patriarcat est de partout, même s'il peut avoir des formes légèrement différentes. Bah, en fait, il est au cœur de l'oppression des femmes partout dans le monde. Et elle essaye de démontrer, et je trouve qu'elle le démontre assez brillamment, que finalement, la seule chose qui est réellement universelle aujourd'hui pour les femmes dans le monde, c'est d'être soumise au patriarcat. Voilà, malheureusement. Alors, le film, il a pas mal dérangé. C'est logique parce qu'on est dans une époque où on essaye de nous faire croire que la religion, c'est rien, qu'il ne faut pas lutter contre les religions, que c'est la paix, l'amour, tout ça, tout ça.
Oui, justement, c'est pas que c'est rien.
Oui, non, mais que ce serait positif, c'est ça. Voilà, on a un petit retour du religieux, on le sent bien. Et en fait, bah, justement, ces 5 héroïnes dans ce documentaire, elles démontrent quand même qu'elles sont souvent soumises à leur propre religion et que la religion n'est qu'un relais du patriarcat. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est justement qu'elles le disent, et c'est elles qui le disent, c'est pas la réalisatrice. Je tiens à préciser que Barbara Miller, on la voit nulle part dans le film, hein. C'est-à-dire qu'elle ne fait que filmer et qu'interviewer, et on n'entend même pas ses questions. Le but, c'est que vraiment ce soit les personnes qui sont interrogées qui vous donnent leurs sentiments, parce que sinon ce serait un peu étrange, ça ferait un petit peu un côté François Ruffin, vous savez, quand on se met en scène pour faire semblant d'aller voir les gens qu'on défend. Bah elle se met pas du tout en scène, elle se met plutôt en retrait, et c'est très agréable d'avoir un documentaire justement avec quelqu'un qui est en retrait. Donc, je vais vous lire juste 3 lignes du dossier de presse, parce que je trouve que c'est bien parlant. 5 héroïnes, 5 pays, même combat, s'affranchir des préjugés, combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Et donc, le fameux hashtag female pleasure, c'est brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons. C'était les 3, comment on dit Enfin, je sais pas, 3 mots.
Sous hashtag.
Non, ouais. Voilà, c'était le but, en fait, de cette campagne. En fait, c'était ça. Voilà. Donc, c'est 5. Oui, pardon. Donc, ces 5 héroïnes, on les suit souvent via leur révélation face caméra, hein, comme je disais. Excusez-nous, il y a un petit bruit qui s'est produit dans le studio, on s'est demandé ce que c'était. Et on peut le dire, en fait, on ne ressort pas de ce film sans se dire qu'il faut du courage pour oser se lever comme elles l'ont fait et comme ces femmes l'ont fait les unes après les autres. Voilà. Donc je vais vous présenter les 5 héroïnes. Je suis très perturbé, excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui disent voilà, qui sont repartis, qui tapaient à la porte de la radio et qui sont repartis. Donc on va continuer tranquille, hein.
C'est ça. On va faire ça.
Donc je vais vous présenter les 5 héroïnes de ce film. Alors d'abord, vous avez Deborah Feldman. Donc Deborah Feldman, elle a grandi dans une famille juive ultra-orthodoxe dans le quartier de Williamsburg. Alors vous allez me dire, Williamsburg, où c'est? Ben en fait, c'est à New York.
Mais oui.
Hein, c'est en plein cœur de New York, c'est à Brooklyn en fait, hein, pour ceux qui connaissent New York. Donc on n'est pas au fin fond d'Israël ou de voilà, on est à New York. Hein. Et ici en fait, dans ce quartier, bon, on porte la tenue traditionnelle d'appartenance à la communauté. Et elle en fait, elle va nous entraîner dans sa vie d'avant, celle d'une femme dans un monde où le plaisir et l'amour n'existent pas. Les vêtements sont là pour cacher les corps, la religion est au cœur de tout, et le plaisir est interdit car Dieu l'impose, évidemment, que le plaisir soit interdit, c'est pas marrant. Elle va nous parler de son mariage forcé avec un homme, oui.
Et le plaisir au sens large.
Ah, au plaisir, tous les plaisirs.
On est d'accord.
Voilà. Que ce soit les plaisirs charnels, mais tous les plaisirs. Hein, c'est vraiment. Voilà. Elle va nous parler de son mariage forcé avec un homme qu'elle ne connaît pas du tout, qui est choisi par sa famille. Oui, on est bien au New York dans les années 2000. Hein. C'est pas une femme qui vous parle d'il y a 70 ans, elle vous parle d'il y a 20 ans. Elle aurait pu subir et se taire, hein, comme des milliers de femmes de sa communauté, mais non. Elle a non seulement décidé de partir et de quitter sa communauté, mais en prime, d'obtenir la garde exclusive de l'enfant qu'elle a eu avec son mari, forcé. Elle sera la première à réussir à ça. Elle va donc médiatiser les choses, écrire un livre qui est un best-seller aux États-Unis. J'ai vérifié les ventes, c'est hallucinant. Elle a vendu plus de 3 millions d'exemplaires de son livre qui s'appelle Unorthodox and Exodus. voilà, qu'on peut traduire par se désorthodoxiser et s'exiler, voilà. Et la suite de son histoire, bah, je vous laisse la découvrir dans le film, sinon c'est pas marrant. Mais elle ne s'arrête pas là. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Ensuite, on va croiser Leïla Houssen. Alors Leïla Houssen, elle est née à Mogadiscio, dans une famille musulmane plutôt privilégiée et très pratiquante par contre. Hein. Elle était une des rares filles en Somalie qui a été autorisée, à être autorisée à aller à l'école. Donc voilà, donc on peut se dire que c'est un parcours qui devrait la protéger de tous les abus ou autres. Bah, pas du tout. Non, elle va être tout comme sa sœur, excisée. Parce que c'est la tradition, parce que c'est comme ça, et parce que c'est comme ça qu'on rend une femme pure selon l'islam que pratiquent ses parents. Voilà.
Oui. Pardon, c'est intéressant. Elle dit que c'est lié à la religion.
Ses parents lui disent. C'est pas elle qui le dit.
Ouais, alors que justement, repenser quand on a reçu Gam, c'est ce qu'il disait, c'est que le lien avec le religieux n'est pas forcément réel, c'est-à-dire que les religions vont appuyer l'excision, mais.
Oui, tout à fait, mais en fait, c'est comme ça qu'ils l'ont justifié auprès d'elle. Hein, donc voilà. Aujourd'hui, elle mène un combat acharné contre cette pratique, un combat qui peut voir une victoire arriver, parce que oui, on sait que l'excision recule dans le monde, mais bon, elle recule pas assez vite. Mais c'est au prix de l'épuisement, parfois. Sa force et sa détermination sont parfois vacillantes, elle ne s'en cache pas. Mais comment il pourrait en être autrement face à un tel défi, finalement ? Bah, vous découvrirez aussi dans le film ses méthodes pour mettre les hommes face à leur propre bêtise de croire qu'une femme excisée, c'est pur. Voilà. Mais je vous laisse découvrir ça aussi. C'est brutal et efficace. Voilà. Ensuite, on va croiser l'artiste japonaise, Rokude Nashiko. C'est pas facile à dire, mais voilà, Rokude Nashiko, qui a grandi, elle, dans une famille traditionnelle shinto-bouddhiste. Oui, parce qu'on fait un peu le tour des religions, c'est ça qui est intéressant aussi. Alors elle va s'orienter vers l'art et elle va devenir autrice de manga reconnue. Alors déjà, elle nous dit juste un truc, mangaka, vous voyez, ça veut dire auteur de manga. Et en japonais, il n'y a pas de mangaka féminin. Il n'y a pas de mot féminin, pas d'autrice, voilà. Elle va vous donner tout un tas de choses comme ça qui n'existent pas au féminin au Japon. Mais bon, elle est mangaka, elle est autrice de manga. Donc jusque-là, tout va bien, mais elle se rend compte dans la société japonaise, où le Shinto dicte ses codes, la vulve des femmes est un tabou ultime, là où la verge est célébrée, notamment dans le festival de la fécondité. Donc, avec humour et plein de poésie, elle va mettre en scène sa vulve dans ses mangas, voilà, qui va devenir un personnage à part entière de ses mangas. Oui, c'est une jolie petite vulve, voilà, qui s'amuse. Le problème, c'est que ça passe assez mal. Déjà, le manga. Hein. Alors, je vous laisse imaginer, quand elle décide de faire un moulage de sa vulve, de la transformer grâce à l'impression 3D en canoë, pour aller faire une performance d'art contemporain qui va marquer beaucoup les esprits nippons. Voilà. Excellent. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et c'est très drôle. Je vous dévoile rien, c'est dans la bande-annonce. Par contre, je vous laisserai découvrir dans le film la suite et comment justement elle a été. Comment ça a été perçu, quoi. Parce que c'est assez hallucinant de se dire qu'on est en 2019, à l'époque 2017, et que c'est comme ça que ça se passe. Donc on va aussi après suivre Doris Wagner. Donc Doris Wagner, comme son nom l'indique, elle est allemande, hein, et donc elle a grandi dans une famille catholique protestante de Bavière, mais elle va décider de devenir nonne, voilà. Et donc vers l'âge de 19 ans, elle va rentrer au couvent. Alors pour elle, tout aurait pu se passer comme elle l'imaginait, c'est-à-dire vouer sa vie à Dieu. Elle est même heureuse de rentrer au couvent parce que c'était vraiment ce qu'elle désirait. Tout se passait bien, sauf si elle n'avait pas subi des viols répétés au sein de sa congrégation. Voilà. Et donc après être sortie de l'emprise de sa congrégation, elle a décidé d'aider les victimes de viols dans les églises chrétiennes. Et elle tente de faire admettre aux hautes instances de ces églises leurs responsabilités, quitte d'ailleurs à les voir traîner en justice. Et donc je vous laisse voir aussi son parcours, parce qu'il y a d'autres choses, hein, évidemment, je ne vous voile pas tout le film, sinon ça n'a pas d'intérêt.
Oui, non.
Voilà. Ensuite, on va suivre quelqu'un qui est très étonnant, qu'on n'imagine pas, qui s'appelle Vitika Yadav, et qui est hindoue. Qui est indienne et qui a grandi dans une famille hindoue traditionnelle du Rajasthan, du nord de l'Inde. Alors en fait, elle, depuis son enfance, on lui explique qu'il ne faut pas regarder les hommes dans les yeux, que son corps est impur et qu'il doit être caché, surtout le visage, quand les hommes passent par là. Voilà, donc vous saurez maintenant pourquoi beaucoup d'indiennes du Rajasthan portent des saris qu'elles peuvent baisser sur leur visage. Moi, je ne savais pas, donc j'ai découvert ça et Pourtant, elle constate que toutes ces règles ne protègent finalement pas les femmes indiennes qui subissent chaque jour du harcèlement sexuel dans les rues et qui voient le nombre de viols dans les rues et dans les transports, pardon, et qui voient le nombre de viols augmenter ces dernières années pour atteindre des chiffres records tristement célèbres. On parle d'un viol toutes les 2 heures en Inde, hein, c'est quand même assez impressionnant. Et donc en 2013, Vitika Yadav, elle va décider comme ça de ne plus se laisser faire. Elle le dit comme ça en plus, elle dit « j'ai décidé de ne plus me laisser faire ». C'est drôle parce qu'elle le pose comme ça. Ni même de laisser faire cette société tout court. Donc elle crée une association qui s'appelle Loves Matters. L'amour, les amours et l'amour comptent. Alors ça a l'air comme ça tout bête, mais juste elle rappelle quand même, je vous rappelle, en Inde, 97% des mariages sont arrangés. Ouais. Donc forcément, en fait, voilà.
Oui, il n'y a pas d'histoire d'amour là.
Il n'y a pas d'amour. Voilà. Donc c'est une plateforme d'éducation sexuelle et au consentement, parce qu'elle a un peu élargi le truc, hein, elle est au bout des choses. Et elle ne s'arrête pas là, elle va décider d'interpeller la société indienne directement dans la rue. Bah là, je vais vous laisser découvrir dans le film comment elle fait, parce que sinon, c'est pas marrant. Mais pareil, ça vous surprendra, je pense. Mais c'est vraiment très intéressant. Donc, le film, pour moi, de Barbara Miller, il est important parce qu'il porte un message qui est fort, très clairement. Il n'est pas exempt de certaines longueurs. Il faut dire ce qu'il y a, parce que je pense que Barbara Miller, c'est son premier documentaire et elle ne maîtrise pas tout à fait certains aspects. Alors, ce n'est pas une longueur très lourde, mais des fois, on se dit, ah, ce plan, tu pouvais t'en passer, voilà, c'est pas bien grave. Et moi, je trouve qu'il y a une petite vision étrange qui se dégage de la fin de son film, parce que son plaisir féminin, longuement exigé tout au cours du film, elle donne un peu l'impression à la fin que c'est un petit peu réservé au couple et à la famille. Alors, ce n'est pas de sa faute à elle. C'est parce que ces intervenantes vont dans ces aspects-là. Mais je trouve dommage qu'elle n'ait pas trouvé justement une femme, une protagoniste un petit peu plus hors cadre pour illustrer son documentaire. Voilà.
Oui, elle est possible.
Mais je pense que c'est pas une volonté, c'est plus tombé comme ça. Enfin voilà, puis c'est pas grave non plus, je pense pas que c'est. Voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, ah, dommage. Non ? Oui, bon. Non, je sais pas, je croyais que tu avais quelque chose à dire, Clara. Donc, pardon. Donc, malgré ses légers défauts, pour moi, le film, c'est une vraiment contestataire importante qui porte un message des plus importants. Et moi, je dois bien avouer qu'on ressort de ce film en ayant une furieuse envie de changer les choses. Enfin, sauf si vous êtes un gros macho masculiniste et que vous vous dites finalement, ces femmes, elles nous emmerdent. Mais non, si vous avez un brin, un petit peu de cervelle et que vous allumez votre cerveau, en fait, c'est un film assez porteur d'un message fort. Et rien que pour ça, moi, le film, je le trouve assez indispensable. Je suis content parce qu'il est soutenu de plus en plus, c'est-à-dire qu'il y a la TSR, la télévision suisse romande, et Arte qui ont décidé de le diffuser, donc c'est-à-dire qu'après son passage au cinéma. Donc c'est plutôt bien parce que ça va lui donner une audience un petit peu plus large, donc c'est plutôt cool. Et puis moi, je trouve qu'il arrive dans un moment assez important parce qu'on voit en ce moment qu'il y a une vague masculiniste qui revient assez forte, et il suffit de regarder les déclarations de Donald Trump, de voir les différents États américains qui restreignent le droit à l'avortement, de voir en Amérique du Sud le nombre de pays qui restreignent le droit à l'avortement aussi. En Inde, les déclarations de certains ministres qui ont dit que le viol était quelque chose de naturel parce que les hommes avaient des pulsions. Donc on voit qu'il y a une vraie vague masculiniste, et en France aussi, hein, je veux dire, on voit bien aussi que tout le monde s'en fout un peu, quoi, enfin, qu'on fait des pseudo-campagnes, mais qu'en fait, bon, on touche pas trop au cœur du problème ou au fond du problème, parce que d'un côté, on vous dit on fait une campagne, de l'autre côté on refuse de faire de l'éducation sexuelle à l'école, alors que on sait que la clé, elle se trouve là aussi. Et voilà, et en fait, je trouve, voilà, ce genre d'initiative, je les trouve vachement intéressantes parce que, ouais, elle s'inscrit vraiment en contre de cette vague-là, et elle est accessible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un documentaire. Un documentaire, c'est quelque chose que vous pouvez montrer, voilà, ou même par petits bouts, vous n'êtes pas obligé de tout montrer. Mais du coup, ça donne des outils plutôt accessibles et plutôt bien foutus. Voilà, et donc ça s'appelle Female Pleasure. Hashtag female pleasure. Et donc là, sur Lyon, vous pouvez le voir au cinéma La Fourmi. Il est diffusé en ce moment à La Fourmi, Lumière.
Seul cinéma qui
le
diffuse à
Lyon. Non, il y a le Zola aussi.
Ah oui.
À okay. Villeurbanne.
Ouais.
Voilà, donc sur Lyon et sa région, ça va se limiter à 2 cinémas, mais faites vivre ce film, parce que plus les gens iront le voir et plus en fait il sera programmé. C'est un peu le principe des films documentaires en général, mais il vaut vraiment la peine. Enfin, moi je vous le conseille vraiment, et dans le climat actuel, je trouve que c'est important d'avoir d'avoir un petit peu des retours comme ça de gens qui portent des paroles fortes.
Bah ouais, puis enfin, ce que je trouve intéressant, je l'ai pas encore vu. Enfin, je pense que je vais y aller demain. c'est aussi cette notion en fait d'universalité du combat, et parce que universalité de l'oppression en fait, et que il s'agit pas de copier-coller un schéma, parce que finalement chaque vécu enfin, est propre à une culture, ouais, à des trucs, etc. Mais qu'en même temps, en fait, bah ouais, en fait, le féminisme, c'est pas un truc comme tant aime le décrire de blanc bourgeois, etc. En fait, non. Féminisme, en fait, c'est une lutte qui appartient à toutes et toutes qui ont envie d'entamer le combat, en fait.
Ouais, puis alors, ce que moi j'ai trouvé aussi intéressant, c'est qu'on voit plusieurs formes de militance.
Ouais, justement.
Il y a
oui.
vraiment des formes très différentes. Enfin, moi, l'artiste japonais, je la trouve juste géniale, parce qu'elle est tout le temps en train de se marrer, quoi. Et je trouve ça pas. Pourtant, des fois, à sa place, je suis pas sûr que j'aurais ri, mais en fait, voilà, elle a un côté très détaché et très. Elle se marre, quoi. Elle se dit, bousculons la société en nous éclatant un peu, quoi. Et ça a un contraste avec d'autres formes de militance.
Oui, mais pourtant, justement, c'est ça qui est intéressant.
Et pourtant, elle est pas moins militante que les autres. Et voilà, c'est. Mais voilà, je donne cet exemple. Parce que
justement, je pense que c'est ça qui est vachement intéressant. C'est qu'en fait, il n'y a pas une manière de lutter, en fait.
C'est
quoi.
Ça.
C'est-à-dire que c'est pas parce que t'es déter, vénère et que t'as les cheveux colorés en rose que, en fait, ça fait toi un radical, en fait, ou quoi que ce soit. Et qu'en fait, je pense qu'une œuvre d'une artiste peut être parfois bien plus radicale, bien plus interpellante, en fait, qu'un slogan. Pseudo, je sais pas quoi.
Ouais, mais c'est des modes de lutte, et voilà, c'est l'agrégat de tous ces modes de lutte qui fait avancer les choses. Quoi.
Ouais.
Et je voulais juste te dire que, oui, pardon, j'ai oublié de le dire, si vous tapez sur votre moteur de recherche Female Pleasure, c'est Clara, je suis très très fatigué. Et donc, du coup, si vous tapez ça sur votre moteur de recherche, vous tombez sur un site, parce qu'elles ont monté un site autour du film. Il y a plein de documents que vous pouvez aller récupérer, voilà, qui sont pas mal. Il y a plein d'extraits en plus du film. Voilà, et du coup, voilà. Bah, et puis il y a aussi un dossier de presse, et puis il y a des affiches qu'elle vous invite à télécharger et à imprimer pour aller les coller sur les murs. Pour,
c'est
vrai,
mais je connais ça. C'est voilà. Hyper intéressant.
Bah, oui.
Enfin, c'est hyper, je sais pas comment dire, ouvert et partage, quoi.
Ouais, c'est très, très, elle est très dans le partage.
Et donc à chacun et chacune, en fait, de s'emparer du machin et de le porter aussi de son côté, quoi.
Oui. Voilà.
Vachement bien. Bon, bah ouais, c'est sûr, j'y vais demain.
Donc voilà. Et ben, donc, cinéma Le Zola ou cinéma La Fourmi pour voir hashtag
Mais là, cette
pleasure.
Semaine, il n'y a que La Fourmi.
Ah, cette semaine, il n'y a que La Fourmi. Alors, La Fourmi.
C'est
voilà.
Pour ça.
On veut pas faire de la pub, mais c'est juste qu'il est
non, mais
là-bas.
De toute façon, il n'y a que deux ciné, et puis donc voilà, voilà. Quoi.
Donc voilà.
Ouais, bah go, quoi.
Tout le monde est convaincu?
Ah ben, bah, on ne saura pas pour celles et ceux derrière la radio, mais nous, oui.
À la technique, ça va?
Oui, oui, ça va. Oui.
Je crois qu'elle attend que tu arrêtes de parler pour là.
Oui, c'est
alors, on met la musique.
Plus jamais, oui, le silence, la violence. To be, je veux vivre et être. Plus jamais, le rage, silence, la violence. Je veux vivre et être. Un son en bonheur.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org si ça marche. Et donc c'était les Amazones d'Afrique avec Amazon Power, leur nouveau titre qui annonce un nouvel album des Amazones d'Afrique. Et ben, comme elles le disent elles-mêmes, maintenant elles sont de toute l'Afrique, de tout le continent africain, parce que les premières étaient plutôt de l'Afrique centrale, en fait, et là elles sont des Berbères jusque l'Afrique du Sud. Donc voilà, du coup, elles sont contentes. Et elles vont sortir un nouvel album pour fêter ça. Mais c'est toujours aussi engagé, c'est toujours, pour le droit des femmes sur le continent africain, voilà. Et cette chanson, je la trouve vraiment bien.
Et qui finalement a de la résonance où que tu vives, en fait.
Ouais, tout à fait.
Ah ouais, il y a un truc quand même. Hein.
Non, mais c'est ça qui est bien, je crois, là. Puis là, il y avait donc 22 langues.
Ok.
Voilà. C'était
ça pose le truc.
Et on continue. Oui, et donc là, on va partir sur quelque chose de totalement plus sombre. Hein, je vous le dis tout de suite. Alors, amis auditrices, amis auditeurs, si vous n'aimez pas entendre des choses un peu sombres, vous revenez dans un quart d'heure. On va passer à un documentaire de Marie Royer. Alors, ce documentaire porte sur Alice, qui a 36 ans, qui est avocate pénaliste, et elle défend des clients très méchants, délinquants, souvent délinquants sexuels, violeurs, voire pédophiles. Et pour la première fois, elle raconte sans tabou son métier, de la prison au palais de justice, de la stratégie gagnante à la plaidoirie violente, éthique personnelle et petits arrangements avec la vérité, la justice est-elle une affaire de morale ? Ou comment rester droite dans sa robe quand tout vous condamne ? Voilà. Alors que je vous livre quelques extraits. Donc c'est Alice qui parle. J'ai une fascination pour les faits divers et pour l'humain ou ce qui paraît inhumain. Il y a plein de mes clients que je trouve pas sympathiques, ça m'empêche pas de les défendre. Je suis pas sûr qu'on défende différemment un violeur en étant une femme ou un homme. Moi, je ne suis pas soumise à la vérité. Voilà. Donc c'est un reportage qui a été mis en ligne le 7 février 2017 sur le site d'Arte Radio, l'enregistrement date du 27 juillet 2016. Donc voilà, il a déjà 3 ans, mais c'est toujours intéressant. La musique et la réalisation sont de Samuel Hirsch et donc l'entretien et le montage de Mary Royer. À donc 15 minutes.
Moi, un de mes plus beaux dossiers, c'est un jeune homme qui a découpé une prostituée parce qu'il voulait lui voler du fric. Enfin, et il l'a tuée. Et après, qu'est-ce qu'on fait d'un corps ? On n'a pas tellement le choix. Hein, c'est de l'acide ou on découpe. Hein, et donc lui, il l'a découpé, etc. Et moi, je trouvais que c'était, et je le trouve toujours d'ailleurs, que c'est un très très beau dossier, nonobstant évidemment la victime. Ça va faire 8 ans que je suis avocate et 7 ans que je fais quasiment que du pénal. J'ai une fascination pour les faits divers et pour l'humain ou ce qui paraît inhumain. Tueur en série, j'ai pas fait, j'ai des violeurs en série, j'ai des agresseurs, enfin j'ai des gens qu'on n'aurait pas forcément envie d'avoir dans une impasse quand on rentre chez soi, qu'on n'invite pas forcément à dîner. C'est comme dans la vie, il y a des gens qu'on trouve sympathiques et d'autres non. Il y a plein de mes clients que je trouve pas sympathiques du tout, ça m'empêche pas de les défendre et d'être vraiment, de faire vraiment corps, si je puis dire, avec eux à l'audience. Les clients, c'est comme dans n'importe quel autre métier. On défend quelqu'un qui est en prison, il est content, il distribue ta carte. Ben là, c'est pareil et il s'avère qu'en général, les délinquants sexuels en détention, même si personne ne sait pourquoi ils sont là, eux, entre eux, ils le savent. Ceux qu'on considère comme étant les pointeurs, c'est-à-dire ceux qui sont accusés de viol ou d'agression sexuelle, enfin les délinquants sexuels ou les pédophiles. Donc du coup, ils se refilent ta carte en disant « elle, ça va, elle m'a bien défendu » ou « c'est ok » ou « j'ai eu un super résultat » ou je sais pas quoi. Et du coup, ils transmettent ta carte de cette manière-là. Donc plus tu défends des violeurs et plus tu défends des violeurs, en fait. Il y a une caricature qui est de dire que les violeurs prennent souvent des femmes parce qu'ils veulent, vis-à-vis des juges, montrer qu'ils n'ont pas de problème avec les femmes. Je suis pas sûre qu'on défende différemment en étant une femme ou un homme, je crois pas forcément à ça, mais quand j'arrive dans le box ou quand j'arrive en détention à Fleury et que je parle avec lui, j'ai pas l'impression d'être une femme. Alors évidemment, j'arrive pas forcément en maillot de bain ou en mini-jupe, mais j'ai pas l'impression d'être une nana et surtout Je juge pas ce qui s'est passé. Bien sûr que si jamais c'était une de mes amies qui était concernée, évidemment que je ne pourrais pas serrer la main de ce type ni le regarder dans les yeux. Mais là, c'est pas comme ça. Vraiment, je pense qu'il y a une histoire de temps. Le fait d'arriver après fait que forcément, t'as pas le même regard sur ce qui vient de se passer. C'est acté, ça s'est passé. Comment on fait maintenant, ou pour le juger, pour le défendre, pour le soigner, etc. Donc, même si avant l'audience, je ne l'aime pas, ça devient mon meilleur ami le temps de l'audience. C'est comme un ring de boxe. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément d'avocats pénalistes hommes qui sont très machos et qui considèrent que les femmes n'ont pas les épaules pour venir se battre, venir sur le champ de bataille, qui considèrent que les femmes sont mieux pour défendre les victimes, les femmes sont mieux pour défendre les enfants en rapport à l'instinct maternel. Il y a de plus en plus de femmes pénalistes. La seule chose, c'est qu'on en parle assez peu parce qu'elles ont pas le même rapport aux médias que les hommes. Et donc, quand on parle de pénaliste, on parle de ténor du barreau. Mais il y a aussi des femmes qu'on pourrait qualifier de divas qui existent et qui sont très bonnes et qui font pas, qui ne plaident pas en pleurant ou en étant hystériques, pas du tout, et qui sont pas plus douées pour les victimes. Moi, je pense que je suis beaucoup moins bonne pour les victimes que je ne le suis pour les coupables, enfin, en tout cas, les prévenus ou les accusés. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un acquittement d'un mec qui est coupable, ça m'est déjà aussi arrivé d'avoir un mec qui reconnaît les faits et d'expliquer le passage à l'acte de manière complètement fantaisiste à l'audience et que ça passe. C'était en l'occurrence un assassinat entre deux hommes. J'ai fait raconter un peu n'importe quoi au client et la cour l'a cru et ça les a attendris. Et il a été condamné un peu moins sévèrement que, alors, je sais pas si c'est que ce qu'il méritait, mais en tout cas, qu'il aurait pu l'être si la version avait été autre. Pour le coup, effectivement, on s'éloigne de la morale, c'est évident. Mais encore une fois, chacun son job. Moi, je suis pas soumise à la vérité. Il faut n'avoir que comme seule ligne de conduite l'intérêt du client. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir ménager l'art, pas forcément du mensonge, mais de la dissimulation. Moi, mon job, c'est de proposer un scénario et il s'avère que mon scénario a été retenu. Ben, génial, tant mieux pour moi et tant pis pour les policiers qui ont fait l'enquête peut-être trop vite, peut-être pas comme il fallait, qui n'ont pas les éléments suffisants, pareil pour le juge. Voilà, c'est le principe de la justice, quoi. Bon, là où on est content, c'est quand en réalité, le mec dit « je suis coupable » et qu'en fait, il est acquitté derrière, c'est magnifique. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qui peut être dit, la justice en France est très sévère. C'est un tank qui avance sur vous et c'est très compliqué de ne pas se faire écraser. Les jurés ne connaissent pas la justice, c'est la première fois, ils ont vu ça à la télé, etc. Ils passent par tous les sentiments pendant l'audience. Au départ, ils sont attristés par cet homme ou cette femme qui a eu une vie difficile. Après, ils sont en émotion totale et en empathie immédiate parce que c'est humain avec la victime ou victime étant une femme ou un homme. Et puis ensuite, ils sont révoltés par les faits. Puis voilà, ils passent par différents sentiments. À un moment donné, il faut quand même rendre une décision qui n'est pas la vengeance, qui n'est pas la colère, qui n'est pas de la haine, qui est une décision de justice. Donc là, il faut que même s'ils sont pas magistrats, c'est comme si tout d'un coup, on leur demandait de porter une robe et de prendre du recul pour essayer à la fois, et c'est ce que la loi nous dit, ils prêtent un serment qui est magnifique, il faut servir les intérêts de la victime, de la société qui accuse l'individu et de l'individu aussi. C'est la balance, on est là pour équilibrer. Et donc les jurés derrière, évidemment, ils ont la même voix que le président. Maintenant, ils sont rassurés par l'expérience du président aussi, qui va dire par exemple, tel fait, en général, ça vaut 10, ça vaut 15. Parce que sur le tarif, comme on dit, de la peine, les jurés, ils y connaissent rien. Certains ont certainement envie de mettre le maximum en considérant que comme c'est la seule chose à laquelle ils ont assisté, c'est ce qu'il y a de pire. Et le président est là, en général, pour essayer de tempérer un peu les ardeurs de vengeance ou de haine que peuvent avoir les jurés. Évidemment, et là c'est la roulette russe de la justice, on sait en fonction de l'endroit où on est jugé et de celui qui vous juge, on sait qu'on peut manger très cher et que pour les mêmes faits, on prendrait 5 ans de moins ou 3 ans de moins ailleurs, quoi. Et ça change tout, en fait. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que votre procès vous a été volé, que finalement les magistrats s'en foutaient, que la décision était prise dès le départ. Et moi, quand je plaide et que le magistrat fait son morpion, je me dis non seulement il n'en a rien à foutre de l'enjeu qui pour un homme est fondamental, 12 ans c'est énorme de détention, peu importe là qu'il les mérite ou pas, c'est pas la question. Si le mec peut pas être attentif plus de 2 minutes, bah dans ces cas-là, il faut qu'il change de taf et qu'il aille vendre des coquillages sur la plage, les pieds dans l'eau. C'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Donc il faut être à la hauteur de son serment et de sa fonction. Donc évidemment que la justice est humaine, et qu'il y a des matins où moi je me lève, je suis de mauvaise humeur, le magistrat aussi, et il a le droit d'être excédé par le type qui répond pas aux questions, qui contourne, qui se contorsionne, qui machin. Ça arrive, on n'est pas tous à la hauteur de ce qu'on attend de soi. Mais au moins on peut essayer. Voilà. Moi j'écoute pas de la musique pendant que je suis en audience, et je fais pas des morpions pendant que l'avocat général, même si j'en ai envie, pendant que l'avocat général prend ses réquisitions. Donc j'attends la même chose du magistrat. Et tant qu'il y aura des magistrats comme ça, qui humilieront ceux que je peux défendre, je considérerai que ma robe a toujours de l'intérêt. Plus simple de juger un méchant, de condamner un méchant, comme ça on se sent pas coupable en sortant, on lui a filé 10 ans, il mérite bien, prends ça dans les dents, t'es qu'une ordure. Et c'est vrai que, quoi qu'il dise, ça va jamais. L'individu reconnaît les faits, on considère que c'est normal, on va quand même pas lui décerner un bon point, maître, hein. C'est un minimum. L'individu conteste les faits, c'est un scandale, vous vous rendez bien compte, en plus, il les a commis, il est dangereux, et en plus de ça, il est lâche, scandaleux. L'individu présente des excuses comme il peut. C'est pas forcément stratégique, c'est pas forcément une idée de son avocat, parfois il regrette sincèrement, évidemment, ce qui s'est passé. Il présente des excuses, on considère que c'est scandaleux, monsieur, c'est un peu facile, fallait y penser avant, ça suffit pas, c'est que des mots. Il en présente pas, on considère que c'est scandaleux, il pourrait quand même au moins avoir un mot pour la victime, un regard pour elle. L'individu se met à pleurer dans le box, on considère que c'est scandaleux, il pleure sur lui, les larmes elles sont pas de ce côté-là, les larmes elles sont sur le banc des victimes. Mais en revanche, si l'individu ne pleure pas, on va se dire, et ça rentrera dans la caricature, ah bah voilà, il est froid, il s'en fout, il ne ressent rien. Et ça, s'il y a un truc que je fais systématiquement avec mes clients, c'est de leur dire, voilà, quoi qu'il en soit, vous n'arriverez pas à réparer ce qui s'est passé, c'est trop tard en fait. Acceptez d'avoir le mauvais rôle, faites en sorte de pouvoir dire ce que vous voulez dire, parce que s'il y a un truc thérapeutique, c'est peut-être pour vous. De toute façon, on part avec un handicap énorme, on est dans le box. Dupond-Moretti dit régulièrement dans ses interviews que, avant de plaider, ça lui arrive de gerber. Je comprends ce sentiment comme ça de y a évidemment un peu d'ego, hein, mais c'est aussi cet enjeu énorme pour le client derrière, et puis surtout la peur de se rasseoir en disant, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a l'argument qui changera tout, qui va tout retourner, que j'ai oublié? Est-ce que la démonstration que j'ai faite est à la hauteur de ce que le client attend? Les assises, c'est une toile cirée. Hein. On s'imagine que l'audience va dire telle et telle chose, et en fait, on arrive et à la fin de l'audience, il s'est passé complètement autre chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Donc, on s'improvise énormément. Il y a une règle, hein, c'est qu'on ne pose pas de questions dont on ne connaît pas la réponse. Sinon, c'est un boomerang, hein, dans la gueule. Mais au-delà de ça, pour les assises, je passe la nuit à reprendre les différents éléments et à essayer de trouver le meilleur recul ou la meilleure façon d'exposer ce qui parfois est atroce, non pas en dédramatisant, mais simplement en essayant de poser les choses et en respectant d'ailleurs l'équilibre, hein, de l'audience. Je dors en général assez peu, ce qui fait que j'arrive le lendemain matin complètement déchirée, mais en même temps tendue, parce que le stress est très très fort, ça fait très peur de plaider aux assises. Et je me dis que le jour où je serai plus stressée, il faudra vraiment que je change de métier. C'est un peu comme quand on est devant son miroir chez soi, on danse hyper bien, sous sa douche on chante très bien, puis quand on arrive en boîte, la choré qu'on a prévue est pas bonne. Voilà, j'ai toujours peur de ça avec la plaidoirie, on se dit oh, c'est pas mal ce que je viens de dire là, puis en fait on se rend compte que ça tombe complètement à plat à l'audience. Bon voilà, c'est encore une fois, c'est la toile cirée, et là il s'agit pas de dire pardon, en fait je vais recommencer parce que là ça me plaît pas. Non, c'est trop tard, ce qui est dit est dit. Alors les pénalistes disent tout le temps oh, j'ai un beau dossier, et un beau dossier c'est un dossier ultra crade. Les pénalistes disent aussi j'ai pris 12 ans, ce qui est une façon de dire mon client a été condamné à 12 ans. Mais donc il y a une, parfois ça m'arrive aussi de plaider à la première personne en disant j'ai laissé la voiture à tel endroit, j'ai fait ça, mais j'ai un domicile. Bon voilà, évidemment je parle pas de moi, hein, je parle de mon client. Donc il y a une espèce d'appropriation du dossier, on fait corps avec le client. Et ça c'est, on a tout un champ lexical avec les pénalistes ou des blagues qui sont des blagues qui ne peuvent pas sortir de l'univers des pénalistes. Je sais pas, j'ai pris 5 ans pour un doigt. Il reste que ça, hein. Si on s'aère pas l'esprit, on rentre avec le client à fleuri. Donc il faut pouvoir un peu prendre un peu de distance. Alors je sais pas si on peut tous être armés pour en faire. Moi j'ai des potes avocats qui me disent mais je pourrais jamais défendre des mecs comme ça. J'aurais trop peur, je pourrais jamais plaider comme ça aux assises ou avoir ce type de dossier. Voilà, moi je me dis que je ne pourrais pas forcément défendre un employeur ou faire que du divorce. Je trouve que les divorces sont parfois beaucoup plus violents que les dossiers que j'ai. On est contre les magistrats, on est contre le procureur, souvent contre les policiers, contre le client aussi, contre les autres confrères. Et dans des dîners aussi, on est contre les gens qui d'un côté s'abreuvent complètement des histoires qu'on peut raconter, parce que ça fait toujours un peu... pas rêver, mais en tout cas ça intéresse toujours les détails croustillants, les coulisses de ce qu'on peut considérer comme étant l'horreur. Et puis oui, il faut défendre son métier. Moi je considère que tout le monde a le droit d'être défendu. J'ai l'impression parfois d'être le trait d'union entre le box et la société, ou le box et les juges. Quoi. Ça nous fait toujours rire quand on est entre pénalistes, parce qu'on a tous eu le droit à cette question, et on y a droit constamment. Et ce que j'aime, c'est qu'elle commence toujours par « j'imagine qu'on te l'a déjà posé, mais je me demande comment tu peux défendre des gens comme ça ?» Après, ce qui est dur, effectivement, c'est quand on vient de prendre 10 ans et on se sent responsable, alors qu'on est plusieurs. Hein, le magistrat a rendu une décision, mais on se remet tout de suite en question. Est-ce que j'ai fait tout? Est-ce que j'ai tout donné? Est-ce que la nuit blanche que j'ai passée à préparer ma plaidoirie a été suffisante? Est-ce que j'ai assez réfléchi? Est-ce que les arguments sont les bons? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions à l'audience? Est-ce que j'aurais pas dû à ce moment-là me lever, m'énerver, pas laisser passer telle et telle phrase, etc., etc. Et comme dans chaque univers, l'expérience permet après de faire peut-être différemment, mieux ou moins bien. Enfin, de c'est perfectible, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a cette solitude-là de la peine. Mais j'essaye de d'apaiser ça, parce que sinon j'ai déjà dû prendre au moins 200 voire 300 années de prison. Donc j'essaye de calmer le jeu, parce que sinon je suis condamnée à vie là.
Arte Radio. Le
lendemain matin je repars, la journée est nouvelle et enfin voilà, comme un médecin qui perd un patient, ça le rend triste, mais s'il se laisse trop abîmer par ça, c'est fini quoi. Enfin il faut qu'il devienne pédicure quoi.
Et voilà, donc c'était L'avocate du diable, parce que j'avais oublié de donner le titre. Si je l'avais dit, non, je sais plus.
Je crois que oui. Mais...
Et donc c'est toujours dans la causerie au 102.2 sur Radio Canu. Oui, alors c'est des propos qui peuvent choquer, heurter, et voilà, mais c'est comment on est avocate pénaliste et qu'on défend des clients que souvent la société nous dit indéfendables. Voilà. C'est plutôt intéressant, moi, je trouve.
Ouais, mais en plus, je trouve en plus, elle ramène plein de trucs, enfin, même certains trucs dont on a déjà parlé là, c'est-à-dire la déshumanisation des coupables ou des présumés coupables. En fait, ce sont des monstres, et donc en fait, on pourrait se dire, un monstre n'a pas besoin d'être défendu. Sauf qu'effectivement, enfin, je trouve que c'est aussi, ça interroge sur, même si on peut critiquer cette justice, qu'est-ce qu'on voudrait après, en fait. Parce que je suis pas persuadé que le tribunal populaire soit mieux que la justice bourgeoise. Je pense qu'elle est beaucoup plus violente aussi. Enfin, peut-être pas plus violente, mais elle est aussi très violente et pas forcément plus juste non plus. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant.
Moi, ceci dit, je trouve que Alice, donc l'avocate qui parle, elle est tout le temps très détachée. Et on sent qu'elle tient son métier parce qu'elle est tout le temps détachée. Le jour où elle arrêtera de l'être, elle fera plus ça. Ça se sent vraiment dans ses propos et dans la façon dont elle parle. Même si d'ailleurs, ça peut même paraître parfois un peu choquant, la façon, je trouve, dont elle pose les choses. Voilà. Mais j'avais envie, moi, de le passer, ce documentaire, parce que je trouve que voilà, c'est bien aussi d'avoir l'autre aspect, l'autre côté, et d'avoir un petit peu le côté sombre de la justice, comme on dit des fois. Parce que oui, c'est le côté sombre, pour de point de vue de la balance, comme elle parle. Il y a la lumière et la nuit. Donc voilà. Mais je vous invite à aller écouter. d'autres choses sur Arte Radio, si vous voulez, c'est pas mal.
Ouais, ou puis ou partir de ce documentaire-là pour s'interroger, pour discuter, pour essayer d'élaborer des choses aussi. Enfin, je trouve que c'est aussi ça que ça amène, quoi. C'est l'interrogation, c'est... Enfin, qu'est-ce qu'on veut, quoi ? Qu'est-ce qu'on veut comme société, en fait ?
Moi, je trouve quand même toujours intéressant quelqu'un qui vous dit « je ne suis pas soumis à la vérité ». C'est quelque chose d'assez flippant, quand même, de se dire que finalement, le tribunal reste un jeu théâtral et que ça doit nous faire réfléchir aussi là-dessus, parce que, voilà, il y a aussi la notion de théâtre dans un tribunal, d'un côté comme de l'autre, et que donc, du coup, on doit s'interroger sur qu'est-ce que la justice et comment on la rend. Si on se dit « on n'est pas soumis à la vérité », c'est quelque chose d'intéressant, de notion, parce que personne n'est soumis à la vérité. Ni le juge, ni l'avocat, ni qui que ce soit. Le seul qui l'est, en théorie, c'est la victime et l'agresseur. Voilà, ou le bourreau, je sais pas comment dire. Mais... Donc du coup, c'est théoriquement les deux seuls. Le reste, en fait, c'est de la construction. Et ça, c'est, je trouve que c'est une notion qui interroge quand même. Voilà.
Très intéressant.
Pour respirer un peu,
oui, faisons ça.
On va passer un titre un peu léger du nouvel album des Fatal Picard.
Dans la rue, tu es là, sous la pluie, je te vois, on est là. Ton sourire, mon émoi, quand je suis tout contre toi, j'avais juste 16 ans, et tu vois, mais ça ne te dérangeait pas.
Arrête en 1980. Angela, est-ce un rêve? Je ne sais. 83.
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanopé.org. Et donc, c'était les Fatal Picard avec le titre Angela. Bon, une façon de célébrer le couple franco-allemand, façon Fatal Picard.
C'est ça.
Voilà. Donc, on passe aux brèves.
C'est ça, on y va. Eh bien, pour les brèves, alors, toute la semaine, on vous rappelle, hein, c'est la permanence d'aide aux travailleurs sans papier. Donc, tous les jours ouvrables, de 10h à midi à l'Union départementale de la CGT au 215 cours Lafayette dans le 6e arrondissement. On passe au lundi, donc. Lundi, comme tous les lundis, c'est la permanence juridique de soutien aux sans-papiers et à leurs proches qui a lieu de 18h30 à 20h à la Lutine, qui est toujours au 91 de la rue Montesquieu dans le 7e arrondissement. On passe à mardi.
Mardi 4 juin 2019.
Merci. Assemblée générale du collectif Interhosto Lyonnais dans le contexte du mouvement de grève des urgences et des hôpitaux. C'est le mardi, donc 4 juin à 19h30 au bar Les Clameurs qui est toujours rue d'Aguesseau dans le 7e arrondissement. On a ensuite toujours le mardi, c'est des Googleisons Internet. L'emprise de Google, Apple, Facebook, Amazon ou Microsoft ne cesse de croître. Non seulement sur Internet, mais aussi dans bien d'autres domaines. Robotique, automobile, santé, presse, médias, intelligence artificielle, etc. L'association d'éducation populaire, Framasoft, s'est fixé l'ambitieuse mission de montrer qu'il était possible, grâce au logiciel libre, de résister à la colonisation d'Internet et la marchandisation de notre vie privée. Rendez-vous donc à la MJC Saint-Just, qui est toujours dans le 5e arrondissement, 6 rue Fossé du Trion, de Trion, à 20h, donc le mardi 4 juin. On passe
au jeudi 6 juin 2019.
Merci. Donc c'est appel à la reconduite de la grève pour tous les personnels de l'éducation nationale le 6 juin. Appel à l'attention des travailleurs et travailleuses de l'éducation, mais aussi des concernés, élèves et parents d'élèves. Rendez-vous donc le 6 juin en AG à la Bourse du Travail, place Guichard, jeudi 6 juin à 10h pour organiser les futures journées d'action.
Et nous passons au vendredi 7 juin 2019.
C'est génial. La Plume Noire accueille le 7 juin à partir de 20h la tournée de deux figures du rap militant canadien, Lee Reed et Kay the Aquanaut. La soirée sera complétée par l'excellent groupe de punk rock engagé Corol. Le concert est à prix libre et le local de la Plume Noire, c'est le local de la CGA, c'est au 8 de la rue Diderot dans le 1er arrondissement.
Et maintenant, nous allons nous téléporter.
Attends.
Ah non.
Parce qu'avant qu'on se téléporte, on vous annonce aussi que dimanche prochain, 9 juin,
ah oui,
il n'y aura pas de causerie.
Non, c'est pas possible. Mais oh, il si... n'y a pas de causerie.
Donc, je vous souhaite que les blocs soient réparés d'ici là. Vous pourrez entendre nos douces voix avec les podcasts.
Peut-être.
c'est ça. Mais vu qu'on n'est pas là la semaine prochaine, je vous annonce d'avance un festival, le Festival International des réalisatrices, le festival s'appelle Et pourtant elle tourne, qui aura donc lieu du 13 juin au 16 juin. Donc je vous projette un peu loin, mais on sera pas là avant, donc je préfère vous le dire. Vous aurez toutes les infos, c'est etpourtantelletourne.org. Donc c'est un festoche, vous avez...
que des femmes réalisatrices déjà.
Une quinzaine, voire une vingtaine de films avec des diffusions dans des lieux bien différents. Ça va du Comédia dans le 7e, à un Cinoche dans le 4e, à un cinéma à Dessines-Charpieu, à Vaux-en-Velin, Villeurbanne dans le 9e arrondissement, à Rieux, à Sainte-Foy. Enfin, je trouve que l'idée est vraiment très bonne et ce ne sont effectivement que des films et des films faits par donc des réalisatrices et du monde entier. En fait.
Oui, tout à fait.
Donc, ce qui est très intéressant. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner dessus, pardon. Oui.
Et toi qui m'écoutes, dans ce festival, il y a un film dont je t'ai parlé, qui s'appelle Rafiki. Alors tu me dis pas, oui, tu nous avais parlé d'un film, il passait plus, machin. Bah parce que là, il passe. Voilà.
Par exemple, Rafiki, ça aura lieu le samedi 15 au cinéma de Sainte-Foy-les-Lyons, le Mourguet. C'est ça. Donc voilà, vraiment allez sur le site internet et pourtant elle tourne.org, vous trouverez toute la programmation. Voilà.
Et sinon aussi, autre information et aux dernières semaines, c'est le début de la quinzaine des fiertés LGBT, voilà, et donc sur Lyon, il y a plein de trucs qui se passent, tu vas sur fierté.net, t'as toutes les infos, mais surtout le 15, ben, tu viens marcher dans la rue parce qu'il fait vachement beau et que c'est la marche des fiertés et que ça va être vachement sympa. Voilà.
Et ben voilà, tout est dit.
Et ça part de Bellecour à 14h.
Et ben très bien, vous avez toutes les informations pour les 15 jours à venir. Non, peut-être pas toutes, hein. Il y en aura toujours des nouvelles. Et on va se quitter avec un long morceau.
S'il vous plaît.
Parce qu'on pensait terminer plus tôt.
Silence dans les studios, Jean-Yves va annoncer le morceau de classique.
Ouais, préparez-vous bien. Alors, c'est donc de... une coupe. Vous voyez dans quelle ambiance je vis. Tout le monde se moque de moi. Mais non, c'est donc Gustav Mahler. C'est la symphonie numéro 5 en ut dièse mineur. Écoutez bien. Adagietto, sehr langsam. Très lentement. C'est l'orchestre en fait philharmonique de Vienne qui est dirigé par Leonard Bernstein. C'est 11 minutes là de pur bonheur. Donc, je ne sais pas si vous allez dormir ou pas, mais en tout cas, je vous souhaite de pouvoir écouter ça très agréablement posé. Eh bien, on vous donne nous rendez-vous
dans 15 jours.
C'est ça, on sera donc le 16.
Oui.
Le dimanche 16 juin pour la 302e causerie.
Yeah.
On vous dit à tout bientôt, on vous fait des bisous et bon courage d'ici là. Clara veut pas faire des bisous.
Des bisous, au revoir.
Monsieur, je vais te dire au revoir, mais pas des bisous.
C'est pas possible. Eh ben allez, à tout bientôt. Ciao.
Ciao.
Eh ben, ça vient pas ou quoi ?
froid que l'acier d'une paire de menottes. Fausse note ou pas, toujours cette